Les médias pour moi c'est des chroniqueurs, des animateurs.
Derrière il y a plein de choses, des techniciens, les micros.
Interclasse.
Ça part de ma génération,
j'ai ma propre opinion, je pense que je réfléchis.
Bonsoir à tous, Interclass est donc jusqu'à 21h. Depuis quelques semaines déjà, vous écoutez, j'espère, avec plaisir et intérêt, les reportages effectués par les élèves de différents établissements de la banlieue parisienne, qui font partie de notre dispositif. Ce soir, c'est au tour du collège Georges Rouault de l'Académie de Paris, situé juste après le périphérique. Mais c'est bien Paris, c'est le 19e arrondissement.
Interclass saison 4, c'est un truc de ouf.
Let's go
sur France Inter.
J'étais accueilli super bien par des bénévoles, et ces bénévoles-là qui m'ont convaincu de rester en France. Notamment, je pense à une personne qui est devenue finalement ma mère. Pas ma mère de sang, mais ma mère de cœur, qui était une bénévole à la base, et aujourd'hui, on est en relation mère et fils, quoi.
Extrait du reportage que nous écouterons en fin d'émission, c'est Hassan. Hassan, il est afghan. Autour de moi, la classe de 3e, donc de Georges Rouault, c'est la classe de Madame Pavel, que vous connaissez puisque tout au long de l'année, certains de ses élèves ont débattu de questions d'actualité au micro d'Hervé Pochon. Ils sont 13 dans ce studio 621, mais personne n'est superstitieux. Accompagnés ce soir de deux de leurs professeurs et de trois journalistes, bienvenue à vous.
L'égalité des sexes,
la liberté d'expression,
la colère,
les gilets jaunes,
le partage,
vivre en France,
vivre en France,
vivre en France,
en 2019.
Cilia, Marie, Vibhushan, Sacha, Élise et Sarah sont assis autour de cette table du studio 621, ainsi qu'Elena et Laurence, que je salue. Bonsoir à toutes les deux. Je vais vous demander de vous présenter, puisque vous êtes deux des professeurs de cette classe. Bonsoir Madame Pavel.
Bonsoir Patricia. Moi je suis le professeur principal et le professeur d'histoire-géographie des élèves qui sont présents ce soir avec nous.
Laurence.
Laurence Grammard, professeure documentaliste au collège Georges Rouault. Et co-animatrice de la classe média avec Elena Pavel.
Alors, le dispositif interclasse, je dirais que vous le connaissez, mais par cœur, aussi bien que nous, peut-être mieux que nous. Vous y êtes en fait depuis le début, depuis 4 ans.
Oui, c'est la 4e année et puis ça fait plusieurs années donc on produit des reportages plutôt de qualité, qu'on est accompagné par des journalistes investis et avec des élèves qui adhèrent toujours au projet. Donc c'est assez sympathique.
Est-ce que quelque chose change grâce à ce dispositif? Est-ce que quelque chose change dans la classe, Laurent Grammard?
La plupart des choses qu'on remarque depuis 4 ans, c'est vraiment la cohésion de classe. C'est-à-dire que les groupes qui travaillent entre eux pour monter un reportage, réaliser, faire des interviews, je trouve que ça soude des élèves qui sont pas forcément à la base dans la classe proches, mais ça les rassemble.
Alors vos élèves ont bien bossé, ils ont effectué 4 reportages que nous allons écouter ce soir. Le jeune Hassan, ça j'en ai déjà parlé, qu'un des groupes est allé interviewer. Il y a aussi un reportage sur l'école en prison, une rencontre singulière, là je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, et puis une visite dans un centre d'accueil de Médecins Sans Frontières pour des migrants mineurs non accompagnés. Mais d'abord ces banlieues de vie, histoire de découvrir le 19e arrondissement de Paris. Fanny Léonore Crouzet, cela vous a inspiré quelques réflexions.
Des 20 arrondissements parisiens, le 19e héberge la population la plus précaire. 22% de ses habitants vivent sous le seuil de pauvreté, contre 16% dans le reste de la capitale. Mais on oublie ces calculs et on s'y balade, le long des immeubles haussmanniens de l'avenue Secrétan. Parmi les passants, femmes en abaya et hommes en djellaba côtoient les silhouettes en habits judaïques et kippa. La religion est ici à chaque coin de rue. 6 lieux de prière musulmans, dont une mosquée, 10 églises et 26 synagogues. Un peu plus loin, une bande de potes, en habits de plage, part bronzer au parc des Buttes Chaumont. Quand le soleil est trop fort, on s'abrite dans un cinéma. La Géode, la Péniche Cinéma ou le cinéma en plein air de la Villette, les écrans blancs ne manquent pas. Peut-être l'occasion de revoir Le Péril Jeune que Cédric Lapiche tournait en 1994 autour du canal. 25 ans après ce film culte qui dépeint la jeunesse des années 70, Sahara, 15 ans, vit aujourd'hui sa vie de collégienne dans le 19e. Elle m'attend au soleil, adossée à la fontaine au lion qui garde l'entrée du parc de la Villette. Bonjour Sahara.
Bonjour Fanny.
Où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on se retrouve?
Alors là, on est dans le parc de la Villette, dans le 19e arrondissement. Le 19e arrondissement, c'est l'arrondissement où je vis depuis assez longtemps. Je trouve que c'est un très bel arrondissement malgré qu'il y ait beaucoup de stéréotypes, de rumeurs un peu sur cet arrondissement. Puisque j'y vis, je le ressens pas.
Et pourquoi tu as choisi de m'amener ici?
Parce que je me rends souvent ici et on peut passer du temps, surtout comme les journées comme aujourd'hui quand il fait super beau.
C'est important de se balader?
Oui, je trouve que oui, pour un peu s'aérer l'esprit, pour s'épanouir. Bah, du coup, je voulais vous présenter Elise, c'est ma meilleure amie. Et elle arrive d'ailleurs.
On va la voir ?
Ouais.
Et bonjour Elise.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va et vous ?
Pas trop chaud ?
Non, ça va.
Alors tu es la meilleure amie de Sahara ?
Oui, exactement.
Est-ce que vous suivez les influenceurs ?
Oui, ouais, on les suit beaucoup.
Est-ce que vous pouvez me dire, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est un influenceur ou une influenceuse ?
Alors c'est une personne qui est sur les réseaux sociaux et du coup qui nous montre parfois comment elle s'habille, comment elle se maquille, ses voyages, ou rien que faire des vidéos en chantant ou quoi, ou en dansant.
Il y a une question d'argent dedans aussi.
Ils font de nombreux partenariats pour qu'on achète le produit, etc.
Elise ?
La plupart du temps, je ne les achète pas. Enfin, ce qu'ils montrent, etc., je m'en inspire pour trouver d'autres choses. Mais...
Vous, vous faites que les regarder, mais est-ce que vous pensez qu'ils ont une petite influence sur la façon dont vous vivez, Sahara ?
Je pense que oui, un peu. Enfin, je pense que plus tard, ils auront une plus grande influence sur nous. Justement, quand on sera indépendant et qu'on pourra utiliser notre argent comme on voudra.
Ah, là, ils n'en ont pas parce que vous n'avez pas d'argent encore.
Oh, ouais, voilà.
Donc ça vous donne quand même un petit peu envie d'acheter ?
Oui, quand même. Ils peuvent voyager. Il y en a même qui ont arrêté l'école à partir du lycée. Dès qu'ils passent leur bac, c'est bon, ils ont déjà leur métier.
Ça vous fait envie d'arrêter l'école ?
Non, parce que...
Moi, c'est surtout les opportunités qu'ils ont. Parce que du coup, ils ont une telle facilité que ça nous donne envie.
Est-ce que c'est pas une facilité qui est un peu feinte ?
Si, un peu quand même. Mais du coup, ils nous montrent toujours la meilleure image de tout ça.
Et est-ce que parfois vous êtes triste de ne pas avoir cette vie-là ? Ça vous rend triste ?
Non, parce que j'aime bien ma vie quand même. Même si leur vie, elle me fait un peu rêver, mais en vrai, je pense que j'échangerai pas ma vie contre celle-là. J'aime bien ma vie.
Mais t'as bien raison d'aimer ta vie, parce que si ça se trouve, la leur est pas si belle que ça. On va parler des influenceurs et de comment précisément ils vous influencent dans votre vie. Mais je voudrais déjà, Sahara, qu'on parle un petit peu de ce quartier, de ce parc de la Villette, dans lequel tu vas apparemment te balader. C'est un superbe endroit, vous avez beaucoup de chance d'avoir ça à proximité.
Oui, c'est un superbe endroit, et d'ailleurs, quand il fait super beau, on s'y rend souvent. Il y a beaucoup de choses à la Villette, comme le cinéma.
Ça déborde de partout. Il y a la Cité des Sciences, il y a la Philharmonie, il y a le Zénith qui est pas loin. Enfin bon.
Oui, il y a plein de choses et du coup, c'est un super parc pour aller se balader.
C'est un quartier sympa pour toi, Elias ? Tu habites pas loin du collège ?
Oui, moi, j'habite pas loin du collège, même pas 5 minutes.
Ouais.
J'habite dans le quartier, ça fait longtemps que j'y suis et c'est bien là-bas, c'est un bon quartier. C'est un bon endroit, on peut sortir, on peut s'amuser, on peut découvrir, on peut aller manger dehors, on peut faire plein de choses.
Et alors où est-ce que tu vas ? De quel côté ? Parce que je disais tout à l'heure, en fait c'est de l'autre côté du périphérique, c'est-à-dire qu'il y a Pantin qui est tout à côté, mais vous allez plutôt vers Pantin, plutôt vers Paris ?
Moi honnêtement j'y vais dans les deux, Pantin, Paris, n'importe. Là où je peux aller manger, j'y vais.
Et tu vas travailler, t'es gourmand ?
Bah oui, j'y suis.
Ouais. Alors pour parler des influenceurs là, dont il était question tout à l'heure, l'argent que ces influenceurs gagnent, apparemment, ça vous fait pas tant rêver que ça ? Petit silence, petite réflexion.
Parce que derrière, il y a beaucoup de travail aussi. Et c'est pas tous les jours facile. Du coup, ils produisent énormément aussi. Et du coup, il y a du travail. Donc, je préfère quand même pas travailler moins qu'eux. Parce que du coup, il y a aussi le côté où ils s'exposent. Et ça me fait pas forcément rêver.
Et tu penses que ça dure pas forcément très longtemps non plus ?
Oui.
C'est ça, Sahara ? Tu voudrais quelque chose de plus durable et profond ?
Justement, en fait, comme ils nous montrent que ce qu'ils veulent nous montrer, on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière. Et pour gagner cet argent, ils doivent faire des sacrifices quand même. Donc ça ne me fait pas forcément super envie non plus.
Elias, toi, ça te fait envie ?
Non, ça ne me fait pas envie. Ce n'est pas de l'argent mérité. C'est juste que tu es derrière un téléphone, tu fais de la promotion. Ce n'est pas comme un vrai travail. Tu te lèves le matin... Tu vas, tu travailles, tu rentres chez toi et tu fais ça pendant tout un mois. Tandis que tu es juste sur les réseaux sociaux et tu arnaques les gens et tu prends de l'argent comme ça.
T'es un vrai sage, toi ?
Je n'en suis pas trop
non. Un
sage, moi.
Mais t'es pas un sage, mais...
C'est pas bien de prendre cet argent comme ça.
Interclass, c'est trop bien !
Sur France Inter.
Alors, l'école en prison, c'est le premier sujet de reportage de cette interclasse. Trois d'entre vous êtes allés avec Sahara Guibaudeau à la maison d'arrêt de Nanterre, plus précisément au centre scolaire, pour rencontrer à la fois des détenus et des professeurs.
Là, on a
notre poste de sécurité, où on donne les clés, où on donne les alarmes, où on a tout notre équipement sécuritaire. Voilà. Vous allez voir l'entrée en détention.
La directrice Anne Rouville-Drouche nous fait entrer. Nous avons une autorisation exceptionnelle, mais les mouvements dans la prison sont bloqués pour que nous ne croisions pas de détenus.
Merci. La prof de français que vous allez voir à l'œuvre avec ses élèves de français langue étrangère.
Nous voici dans le centre scolaire. Un couloir, des salles de classe. Ici, les détenus étrangers peuvent apprendre le français.
Vous savez comment on va à la mairie ?
Continue tout droit jusqu'à la poste. Après, tourner à droite ou... Voilà. Tourner à droite, c'est comme ça.
Nous allons dans une classe de BTS. Kevin est détenu depuis 4 ans. Nous n'avons pas le droit de lui demander pourquoi. Il nous raconte qu'il ne garde pas un très bon souvenir de l'école.
Quand j'étais plus jeune, j'étais un peu excité. J'ai fait collège et collège, lycée. Parce qu'en fait, j'avais des facilités à l'école, mais j'étais dissipé.
Kevin a mis 2 ans à pouvoir venir en cours. Mais ce n'était pas par manque de place, explique la professeure Sylvie Paré.
J'ai demandé pendant plus de 2 ans avant qu'il m'accorde le centre scolaire.
Quand il est arrivé en détention, c'était un détenu agité. Et pour venir à l'école, en général, il faut avoir un comportement exemplaire. Mais c'est pas parce qu'il n'y avait pas de place.
Maintenant, tu vois bien, je donne des résultats, non ? J'ai validé à 25 ans mon brevet du collège. Avec mention très bien, mais... mais j'ai attendu quand même d'avoir du vécu sur les épaules avant de le passer. Je passe de classe en classe. Pour moi, c'est devenu un plaisir. J'ai besoin d'être occupé en fait en détention. J'ai fait l'atelier à l'usine, donc on fabrique des pièces et des pièces, on est payé à la pièce. Je préfère personnellement l'école. Puis même, ça fait fonctionner mon cerveau, ça me fait du bien. Et puis c'est valorisant à la fin. J'ai jamais passé un diplôme étant dehors. Quand chaque année je ramène un diplôme, ils sont contents. Ma famille, tout ça. On fera une licence l'année prochaine, Sylvie.
Ce qui est difficile, explique Andrea, c'est de réviser dans sa cellule.
Déjà, il n'y a pas beaucoup de place. On a une table plus petite que celle-là, pour faire à manger, pour tout faire à peu près.
Et vous êtes combien par cellule ?
2 ou 3 ou 4. Il y a des gens, ils écoutent de la musique tout le temps. Il y a des gens, ils regardent la télé tout le temps. Il y a des gens, ça, chaque personne a son style de vie en fait. Il y a des gens, ils préfèrent faire du sport. Donc il faut que ça colle aussi. Pour les révisions, tout ça, ça a été assez compliqué l'année dernière pour le bac. Mais on a réussi quand même à s'en sortir.
Les 5 détenus de la classe de BTS préparent surtout leur réinsertion. Pour Sylvie Paré, l'école en prison, c'est une porte de sortie.
Moi, je le crois vraiment profondément. J'y crois, je sais que c'est pas vrai pour tous ceux qui passent par l'école. Mais même s'il y a un tout petit pourcentage pour qui c'est vrai, ça vaut le coup de le tenter. L'année dernière, on a eu 100% de réussite au bac, avec mention très bien, mention bien. Enfin voilà, donc c'était très très bien. Après, est-ce qu'une fois dehors, ils vont s'en servir et ils vont réussir à être plus forts que l'appel de la rue, à réussir à se dépasser pour continuer dans la voie des études ou dans la voie de la sagesse, entre guillemets ? Ça, c'est plus compliqué. Je ne sais pas très souvent ce qu'ils deviennent, en fait. Mais quand je les vois parvenir, je me dis qu'on a réussi.
Et Samy nous fait passer un message.
Il ne faut pas lâcher les études, même si on n'aime pas l'école. Et franchement, non, c'est les meilleures années qu'on passe, les années de collège et de lycée.
Un reportage réalisé par
Elias Benaïssa,
Sacha Boucher,
Elise Fregassa.
Sous la houlette de Sarah Guibaudot. Sacha, tu fermais les yeux là en écoutant. Je pense que tout à coup, tu t'es remis dans cette ambiance. Il est impressionnant, hein, Samy. Comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été un choc pour toi de faire ce reportage ?
Alors, avant d'être un choc, ça a été une expérience incroyable, enrichissante et... un témoin de vie un peu, mais oui, ça a été un choc parce que on arrive en prison. Déjà, la sécurité est incroyable. Mmh. On s'y attendait un petit peu. Mmh. Quand on arrive pour interroger les prisonniers, on se dit que en fait, c'était des gens comme tout le monde. Ils étaient gentils, compréhensifs et intelligents. Et ça a fait un vrai choc parce que on se dit que ça peut arriver à tout le monde et que c'est quelque chose d'assez spécial.
Comment est-ce que vous... Bonsoir Sarah Guibaudot. Comment Bonsoir. Est-ce que vous avez choisi le sujet ?
Quand ils ont su que moi j'étais journaliste au service justice, forcément voilà. C'est un des sujets qui a émergé. Je crois qu'il émerge tous les ans. Mmh. Par contre, réussir à faire rentrer des collégiens en prison, apparemment ça s'était jamais fait. Pourtant, tout le monde nous a fait confiance. Alors, il y a eu quelques préventions. Hein, l'administration pénitentiaire, la maison d'arrêt de Nanterre, au départ, faire venir des jeunes de 14 ans en prison, c'était voilà, ça faisait peur. C'est une lourde responsabilité. Et effectivement, c'était passionnant. et merci encore à la professeure Sylvie Paré,
qui est directrice du centre scolaire et qui a écrit d'ailleurs un livre, L'école en prison, une porte de sortie. C'est exactement d'ailleurs ce qu'elle dit. Élise, toi, comment est-ce que tu as vécu les choses?
Moi, du coup, j'avais déjà une idée de la prison, mais par rapport aux séries et aux films. Et au final, je me suis rendu compte que c'est vraiment pas la même chose.
Est-ce que ce que Samy, peut-être je peux poser la question à Sacha, quand Samy dit que c'est valorisant d'avoir des diplômes, c'est une prise de conscience qu'il a peut-être eu en prison, même certainement eu en prison, qu'il n'avait pas avant. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui résonne en toi d'une manière particulière?
Oui, savoir qu'on peut passer des diplômes là-bas, déjà, c'était quelque chose qui me paraissait assez fou, parce que je pensais pas que l'environnement s'y prêtait. Et oui, ça m'a fait un choc.
Est-ce que vous aimez votre collège, Elias? Toi, tu n'as pas participé au reportage, mais tu as quand même le droit de parler. T'aimes bien ton collège?
À moitié, on va dire.
Alors, t'aimes bien la moitié droite ou la moitié gauche, ou le dessus, le dessous? Qu'est-ce que t'aimes bien dans ton collège et qu'est-ce que tu n'aimes pas?
Ce que j'aime bien dans mon collège, déjà, c'est parce qu'il y a mes amis. Mmh. Ensuite, ce que j'aime moins, c'est les cours, mais bon, on est obligé de faire avec. Comme ça, on a des diplômes.
Pourquoi t'aimes pas les cours? T'aimes pas les profs? Allez, elle se bouche les oreilles, là. Elena et Laurent.
Non, si, j'aime bien les professeurs.
T'aimes bien les professeurs, mais pas forcément les matières.
Pas les matières, pas trop.
Aucune
les matières.
Aucune matière?
Ah si, j'aime des matières.
Bah
comme,
alors, lesquelles?
Le sport, l'anglais et un peu du français.
Et t'as des bonnes notes?
J'ai des bonnes notes.
Et tu travailles donc, ces matières-là?
Oui, je travaille. Bah, faut bien travailler pour avoir son brevet.
Ouais. Sacha, dans quelle matière tu es bon, toi? Quelle matière tu préfères?
Je pense que je préfère l'anglais et le français.
Et t'aimes bien le collège?
Oui.
Ou t'aimes bien que la moitié ou t'aimes bien tout?
Non, j'aime bien le collège. On peut s'y faire des amis, faire de nouvelles expériences.
Oui. C'est une expérience de la vie, en fait.
Oui.
Sarah, je te vois sourire. Tu as sûrement un avis sur la question.
Bah, moi aussi, je suis d'accord avec eux. Je pense que c'est une chance d'aller à l'école. Et j'aime bien le collège, même si en ce moment, j'ai plus envie d'aller au lycée. Parce que ça fait quand même 4 ans qu'on y est. Et... qu'on vit la même routine, même si c'est bien, je dis pas que c'est nul. Mais en plus, dans notre collège, on a plein d'opportunités. Surtout cette année de troisième, on a eu plein d'occasions de faire des sorties, de faire un reportage, etc. Mais au bout d'un moment, au bout de 4 ans, je pense qu'on a tous envie d'aller au lycée.
Mais pourquoi tu dis, tu penses pas que toute la vie, si on fait pas en sorte que ce soit autrement, c'est un peu une routine? Même après, quand on a un boulot, quand on a... Tout est une routine. Quelquefois, les jours se ressemblent, mais pas toujours.
Oui, enfin, tout est une routine, mais je pense que c'est bien parfois de changer de routine et de pas avoir toujours la même routine.
Qu'est-ce que ce serait pour vous qu'une... Je sais pas si vous pouviez imaginer l'école de vos rêves, une école idéale, ce serait quoi?
Bah, je pense qu'on commencerait pas les cours à 8 heures. On pourrait commencer un peu plus tard. Et on aurait une cafétéria dans le collège. Les cours, ils seraient... Enfin, je pense qu'on terminerait aussi moins tard. Et aussi, quand on aurait des heures de perte, on pourrait sortir. Au lieu de rester tout le temps à l'école. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais...
Oui, moi, je suis d'accord. Et je pense qu'on pourrait même rajouter une heure pour la sieste, après avoir mangé. Je pense qu'on pourrait plus rajouter d'autres matières, comme, par exemple, le cinéma, qui serait pas sur l'heure du midi avec comme activité, mais vraiment que ce soit une matière.
Elias, qu'est-ce que tu penses, toi?
Moi, je pense qu'on devrait enlever tous les cours, simplement.
Mais ce serait plus l'école.
Ce serait plus l'école, et c'est bon.
Alors maintenant, on va écouter un petit peu de musique. Il se trouve que c'est votre choix, donc je voudrais que Vibhushan, tu veux bien nous dire ce qu'on va écouter?
On va écouter Médicament de Niska et Booba.
Bye bye, bye bye, bye. Elle a du rouge sous ses talons. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Elle veut connaître mes secrets. La nuit, je dors près du canon. Mais dites-moi, je dois faire comment? Je suis encore dans le sale. Je suis venu dans l'inconnu. Je repartirai inoubliable. Baby, maman est trop têtue. Elle veut des bisous, pas des chaussures. Mais dites-moi ce que j'ai pas fait. Je lui ai acheté des joues épais. Mais la petite n'est plus tébé. Elle veut des sorties comme au début. Bye bye, bye bye, bye. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Elle me dit qu'elle a mal. Elle me dit qu'elle a mal. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament.
Chacun, chacun, chacun. De toute façon c'est chacun sous chacun. Chacun, chacun, chacun. De toute façon c'est chacun sous chacun.
Elle me dit de quitter le bloc. Quitter le cartel des Sinaloa. Elle me dit qu'elle va jeter mon club. Mademoiselle veut faire la loi.
Elle est restée plantée à...
attends que je demande pardon. J'ai sauté sur mon cheval, la chicha ne s'allume pas sans charbon. Cabeza de mort sur le blason à l'audition. Ce soir, je vais lui faire du dirty. C'est normal que je paye l'addition. Le chauffeur est en bas, je te ramène pas, c'est trop la mission. Mais tu ne m'en voudras pas, je suis un chacal, t'avais raison. Tu dis que je n'ai pas de cœur, je dis que c'est juste une mauvaise gestion. Quand je t'ai montré le bail, tu as dit aïe sans poser de questions.
Bye bye, bye bye, bye. Du rouge sous ses talons. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament. Elle me dit qu'elle a mal. Elle me dit qu'elle a mal. Elle me dit qu'elle a mal. Elle veut que je sois son médicament.
C'était Médicament de Niska et Booba.
Interclasse.
Une interview où c'est stressant.
Sur France Inter.
Nous, les élèves du collège Georges Rouault, seul collège parisien d'interclasse, avons voulu rencontrer d'autres élèves de la capitale, d'un quartier à nos yeux plus favorisé que le nôtre, ceux du lycée Montaigne.
Vivre en France en 2019, ça veut dire quoi pour Ambre, Baptiste, Charlotte, Adrien, Inès et Noah?
Voici un aperçu de notre rencontre avec eux.
Une rencontre singulière, effectivement.
Est-ce que vous croyez en l'égalité des chances?
Ah oui, c'est compliqué là.
Bah, je pense pas du tout qu'il y ait une égalité des chances dans toute la France. Surtout, on voit vraiment qu'à Paris, les gens, ils ont beaucoup plus de chances de faire des bonnes études et tout. Et après, même au sein de Paris, on voit qu'en fonction du secteur où on habitait, si on habite en banlieue ou dans le 15e ou dans des trucs comme ça, en fonction des collèges où on a été, on peut facilement ou pas accéder à des lycées qui sont beaucoup plus élitistes. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas du tout une égalité des chances, et même si on se concentre que sur Paris, quoi.
Vous avez de l'argent de poche ou pas?
Bah, moi, personnellement, j'ai eu de l'argent de poche en 6e, et avec du recul, je trouve ça important d'en avoir en fonction d'où on habite, etc. Mais je trouve ça intéressant que j'en ai eu tôt, parce que du coup, j'ai pu réussir à me rendre compte de la valeur de l'argent, à quoi ça servait, comment le dépenser, comment le gérer. Quand j'étais petite, je dépensais tout tout de suite, et puis maintenant, je fais plus attention, je fais pas les mêmes dépenses, etc. Donc je pense que c'est intéressant d'en avoir relativement jeune. Après, ça dépend aussi du point de vue des parents, etc.
Est-ce que vous, en tant que lycéen, vous avez des projets pour votre avenir?
Personnellement, mes parents me mettent beaucoup la pression sur ça, parce que c'est vrai que j'ai vécu dans un milieu plutôt artistique où toute ma famille sait déjà ce qu'ils veulent faire. Et c'est vrai que moi, j'en ai vraiment aucune idée. Mais vraiment, c'est assez grave, en fait. Enfin, non, mais c'est, d'un certain point de vue, c'est assez grave, puisque c'est vrai que je m'intéresse à tout sans vraiment m'y investir. Et ça fait un peu peur, quand même.
J'ai l'impression que avant, dans l'époque de mes parents, des trucs comme ça, quand on leur demandait à 15 ans qu'est-ce que vous voulez faire, mais alors là, ils nous disaient « je veux faire ça exactement ». Surtout, ils étaient un peu formés par leurs parents. Et là, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus la jeunesse, elle est un peu plus ouverte, parce qu'elle ne se fait pas formater par ses parents. Mais en même temps, du coup, ça fait que tous les gens à qui je demande « tu veux faire quoi plus tard ?», très rares sont les personnes qui me disent exactement un projet exact qu'elles veulent faire. Et les gens sont plutôt là « je préférerais plus faire peut-être du droit ou des trucs comme ça ». Personne n'est très exact.
Vous préférez avoir le travail de vos rêves, mais un salaire pas très généreux, ou un salaire de malade, mais pas un travail que vous aimez?
Moi, jusqu'à pas très longtemps, même peut-être septembre, octobre, je préférais largement gagner beaucoup d'argent et faire un métier qui me plaisait pas. Et plus j'avance dans ma scolarité, plus je me dis que je me vois pas me lever tous les jours de ma vie en me disant que je fais quelque chose que j'aime pas, parce que c'est pas possible pour moi, c'est pas envisageable. Donc après réflexion, ça changera sûrement peut-être plus tard, mais je préfère avoir un salaire où peut-être j'aurais sûrement du mal, où je devrais me priver de certaines choses, mais faire quelque chose qui me plaît vraiment.
Moi, personnellement, je préférerais faire un travail qui m'ennuie un peu et gagner beaucoup d'argent qu'un truc que j'adore et qui paie rien. Parce que si je faisais un truc que j'adore, je me ferais payer d'aller me baigner à la piscine, sauf que je gagnerais rien. Donc moi, je pense que, moi personnellement, je préférerais gagner de l'argent et faire un truc qui m'ennuie.
Mais en même temps, on peut se dire que les gens qui veulent avoir un métier qui ne leur plaît pas forcément, mais qui dans ce cas-là gagnerait quand même plus d'argent, le bonheur, il ne le chercherait pas dans l'argent, mais dans les choses qu'ils peuvent faire avec cet argent. Par exemple, si effectivement, 8h, 18h, tu fais un métier qui ne te plaît pas, tu travailles, tu es avec des gens que tu n'aimes pas forcément, et puis tu rentres à la maison, et puis là, tu peux vraiment te faire plaisir, quoi.
une discussion animée par Cécilia Dong, Sarah Galem, Kabilan Karunaitasan, Sarah Chéloa, Elena Piel-Lelouédec, Vibhushan Chanmugathasan et Christine Masson.
Eh ben oui, et Christine Masson, évidemment. Bonsoir, ma chère Christine.
Bonsoir.
Vous les avez bien éduquées. Hein. Comment est-ce que ça s'est passé, votre travail? C'est la première année que vous participez,
oui,
à ta
classe? Oui, c'était la première année. Je ne connaissais pas, cette génération. Je n'ai pas d'enfant. Et on a commencé à parler du sujet vivre en France. Et puis on s'est dit après, mais on vit où? On vit à Paris. Après, moi, je leur ai posé des questions sur, bah, en fait, vous connaissez Paris ou pas? Vous connaissez d'autres quartiers? Je me suis aperçu, pardon pour vous, mais qu'ils ne connaissaient pas énormément de quartiers en dehors du leur. C'est là où on est arrivé aux collégiens de leur génération. Et puis à cette idée, effectivement, est-ce que eux, à Montaigne, en face du Luxembourg, ils ont les mêmes préoccupations que nous dans le 19e arrondissement?
Alors, est-ce que ça vous a impressionné d'abord? Quelles ont été vos impressions quand vous êtes arrivée là-bas, Elena?
C'est un quartier très différent du nôtre. Donc automatiquement, on s'imagine qu'ils n'ont pas forcément la même vie que nous, les mêmes préoccupations que nous. Et le lycée, en plus, il est magnifique. Il y a le jardin du Luxembourg juste à côté. Et c'est tellement différent de notre quartier avec le collège que... Bah ouais.
Vous avez été impressionnée.
Ouais.
Peut-être qu'eux l'ont été aussi impressionnés en vous voyant. Hein. Est-ce que, Sarah, par exemple, toi qui a aussi participé à ce reportage, est-ce que tu penses qu'ils ont un côté un peu enfant gâté?
Non, je pense pas. Mmh. Comme l'a dit Elena, ils avaient quand même les mêmes préoccupations que nous. Mmh. Et j'ai remarqué qu'ils se comparaient beaucoup aux grands lycées parisiens et français, comme Henri IV et Louis le Grand, en disant qu'ils avaient peut-être un niveau en dessous.
Cécilia, qu'est-ce que tu en penses, toi? Vous vous êtes retrouvée sur plein de sujets?
Oui, beaucoup, comme l'avenir, l'argent et tout ça.
Ouais. Par exemple, alors, sur l'argent, est-ce qu'il faut avoir un salaire de ouf ou avoir un travail de rêve? Qu'est-ce qui vaut mieux? Vibhushan.
Un salaire généreux. Parce que, en fait, moi, ce que je me dis, c'est que peut-être je vais galérer pendant le travail et je vais m'ennuyer, mais en tout cas, je sais qu'après, pour la suite, bah, je serai bien. Je pourrai m'acheter tout ce que je veux, etc. Donc, je préfère largement avoir un bon salaire.
Est-ce que tu as une idée déjà de ce que tu veux faire plus tard?
Je suis encore sur un doute, mais je pense plus à être pilote de ligne.
C'est difficile de savoir vraiment comment s'orienter très tôt. Sarah.
Oui, je pense que notre génération et notre classe, et la classe à Montaigne, elle était plutôt perdue dans la prévision de leur avenir.
Est-ce que, par exemple, tes parents, tu en discutes avec eux? Est-ce que ça peut te donner une idée de ce que tu veux faire après?
Oui, j'en discute pas mal avec eux. J'aimerais bien me diriger soit vers la diplomatie politique, tout ça, soit vers la psychologie.
C'est des beaux métiers là aussi, Elena. Toi, tu sais un petit peu, t'as un peu une idée de ce que tu veux faire?
Moi, j'aimerais travailler dans le cinéma, mais je sais pas dans quelle branche.
Elle est très cinéphile. Hein,
elle est très cinéphile, c'est vrai. T'aimes bien le cinéma? Qu'est-ce que t'aimes bien comme genre de film?
Bah, je regarde un peu tous les genres de films. Après, niveau réalisateur, j'aime beaucoup Clint Eastwood, Wes Anderson, Woody Allen, Hitchcock.
Mais elle a du goût, cette jeune fille, hein, non?
Elle a de la connaissance.
Elle a de la connaissance,
C'est assez pointu,
C'est très pointu.
Ouais.
Mais est-ce que c'est important pour vous de vivre de sa passion, de faire de sa passion un métier? Parce que tout à l'heure, Vibhushan, tu disais, ça m'est égal de m'ennuyer toute la journée du moment que j'ai un bon salaire et que je gagne beaucoup d'argent. Tu sais, s'ennuyer toute la journée, c'est très très long, hein.
Même si ça serait long, après, je pourrais en profiter.
Le soir, quand tu sors?
Bah, je verrais pas mon compte bancaire en moins, je sais pas combien, enfin, voilà.
Tu préfères ne pas être à découvert, c'est ça?
Oui, voilà.
Christine Masson, vous vouliez ajouter quelque chose?
Il y a une question qui a été posée par ma voisine
Cécilia,
qui a demandé aux élèves de Montaigne, êtes-vous politisés? Et là, blanc total. Personne n'était politisé, et même chez nos amis de Georges Rouault, pareil, voilà.
Bah, ils sont peut-être un petit peu, non? Ils sont peut-être un petit peu jeunes,
oui.
Non? Ça vous intéresse pas, la politique? Chez vous, ils font tous non. Elena, tu fais signe que non de la tête. Vous n'en parlez pas en famille, par exemple?
Si, mais c'est pas le sujet principal, et moi, ça m'intéresse pas.
Pourquoi ça t'intéresse pas?
Je sais pas, mais ça m'énerve, enfin...
Sarah, qu'est-ce que t'en penses? Tu te sens une âme un peu de politique?
Non, pas vraiment, moi non plus. Quand il y a des élections, etc., je m'y intéresse quand même un peu. Enfin, c'est pas que ça m'ennuie, mais c'est pas du tout le sujet principal non plus chez moi.
Qui veut bien nous annoncer ce qu'on va écouter maintenant? Je crois que c'est toi, Omar. C'est pour ça que tu t'es installé à la table. Vas-y.
Alors, nous écoutons 10 mois de Orelsan.
«
Laisse-moi tout t'expliquer. Le problème c'est l'ennui. Parce que quand je suis tout seul, je peux vite partir en vrille. Je fous rien toute la journée. Je bascule dans la déprime. Et je sais même pas pourquoi. Je fais n'importe quoi. Faudrait voir un psy. Laisse-moi tout t'expliquer. Le problème c'est l'alcool. Ça commence par un verre. Et mes principes s'envolent. Laisse-moi tout t'expliquer. Le problème c'est les autres. Quand j'essaie de rentrer, ils me poussent à la faute. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai.
S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir?
Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est le stress. Quand les problèmes arrivent, je bloque et je délaisse le reste. J'arrive plus à penser. Donc il faut que je décompresse. Mais je vais beaucoup trop loin. Je contrôle plus rien, y'a plus de gentillesse. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est la peur. Quand je m'enfonce dans la nuit, cherche la lumière ailleurs. Laisse-moi tout expliquer. Le problème c'est l'ego. Il me pousse à séduire, à posséder les choses. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai. Pour de vrai, pour de vrai.
S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir? S'il te plaît, dis-moi. Pourtant j'aime cette fille-là. Pourquoi je fais tout pour la faire souffrir?
Dis-moi, dis-moi, dis-moi.
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 Donc, nous venons d'écouter « Dis-moi » de Orelsan.
Est-ce que tu as aimé, Omar? Parce que oui. Tu as beaucoup bougé hein, sur ton fauteuil.
Oui, moi, ce qui me plaît, c'est le chant. Parce qu'on sent que le chanteur, il incite sur ses paroles et il y a de l'ambiance.
Et c'est entraînant, Comer, non? C'est langoureux, même. Tu danses? Oui. Tu sais danser? T'aimes bien?
J'ai pas souvent dansé avec des personnes, mais...
Mais tout seul, c'est sympa aussi.
Oui.
Interclasse.
Ça va, ça se passe.
Sur France Inter.
Ça va, ça se passe, c'est vrai ce qu'elle dit, vous êtes d'accord autour de cette table? Et dites-moi oui, 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 mais dites pas oui avec la tête simplement.
Oui,
oui. Bon. Oui. Alors, les migrants mineurs non accompagnés, enfin ceux qui en l'occurrence n'en ont pas obtenu le statut, sont désormais devenus un problème politique. La loi Asile et Immigration prévoyait au départ un fichage des mineurs isolés. Beaucoup d'organisations ont protesté, disant que c'était là une atteinte grave aux droits de l'enfant. Médecins sans frontières propose un centre d'accueil de jour, ou donc à ces jeunes migrants qui ne savent pas où aller, et c'est précisément l'objet de ce reportage.
On est dans une salle d'accueil. Il y a des chaises, il y a quelques personnes qui arrivent au fur et à mesure.
On voit des femmes sur des tableaux, souriantes, qui sont affichées sur le couloir, le long couloir par lequel on est passé pour arriver dans l'accueil.
Corinne Thor, chef de mission chez Médecins Sans Frontières, nous fait la visite de ce centre d'accueil de jour pour mineurs migrants non accompagnés.
À partir du moment où ils passent cette porte, ça veut dire qu'ils sont admis chez nous.
Ils ne sont pas reconnus comme tels juridiquement. Conséquence, ils sont exclus de l'aide sociale à l'enfance et ne peuvent donc pas aller à l'école.
Ce centre fait 600 mètres carrés.
Ici, c'est leur salle, on les autorise à faire tout le bruit qu'ils veulent. Ils peuvent faire de la musique, ils peuvent danser, ils peuvent... ils jouent... Normalement, là, ce que vous voyez... Ce sont des dessins qu'ils font, mais qu'ils font en règle générale dans une autre salle qui est beaucoup plus calme. On a tenté de les faire afficher dans le long couloir. Non, il n'y a pas moyen, ils les mettent partout. Donc on a fini par se dire qu'il fallait les laisser.
Ça représente beaucoup l'Afrique. Il y a les noms de leur pays. Il y a écrit sur un des dessins « Mettons les différences de côté et faisons la fête ensemble ».
On y va ?
Dans ce centre, les jeunes bénéficient d'un bilan médical. Ils peuvent manger, se reposer. Ils sont aidés et accompagnés par une psychologue, une juriste, une assistante sociale.
Nous voilà maintenant devant une salle qui ressemble un peu à notre CDI du collège. Des jeunes sont assis les uns à côté des autres. Certains se reposent, d'autres chattent sur leur téléphone portable. À l'entrée de la pièce, on croise un garçon d'environ 15 ans. On tente d'en savoir plus sur lui. Tu viens souvent dans ce centre ?
Est-ce que tu viens plusieurs fois dans le centre ?
Oui. Ouais. Ouais. Moi, je parle bien d'italien.
Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Je vais poser la question. Tu es resté combien de temps en Italie, toi ?
Forcément que 2 ans.
2 ans. Ouais. 2 ans. Donc, il fait partie de ces jeunes qui ont traversé la mer Méditerranée et arrivé en Italie en bateau.
Et est-ce que tu trouves que tu as bien été accueilli en France ?
Il faut aller chercher un interprète.
Non,
non, c'est parce que t'es d'accord.
C'est apparemment difficile de parler de son histoire. L'adolescent a l'air encore traumatisé. Mais au bout de quelques minutes, changement d'ambiance. Une jeune stagiaire de 15 ans se place au milieu de la salle et propose un jeu de vocabulaire.
Non, on se moque pas.
Ok, M.
Nous nous approchons doucement.
C'est un micro pour France Inter et on est des...
La radio.
C'est la radio.
Okay. Ce sont des jeunes de vos âges.
On nous invite à jouer. On devient tous moins timides.
Stop.
Ce jeu détend l'atmosphère. L'un des garçons accepte alors de nous parler dans une pièce à l'écart. Il s'appelle Camara, il a 16 ans et il est malien.
J'ai quitté le Mali. Parce que ma famille, ce sont des pauvres.
T'es venu tout seul ?
Oui, je suis venu tout seul.
Camara paraît souriant, décontracté, mais son air joyeux cache une dure réalité.
Je dors dans la rue.
Est-ce que tu vis bien en France ?
Oui, en France, je le sens bien, mais on est fatigué quand même parce qu'on était à la rue. C'est compliqué. On ne mange pas bien, on ne lave pas bien, on ne peut pas dormir. En fait, il y a froid aussi, on est fatigué.
Il est passé par la Mauritanie, le Maroc, où il s'est blessé à la jambe lors d'une course-poursuite avec la police. Il a été aussi en Espagne. Une fois arrivé en France, l'espoir d'une vie meilleure n'est toujours pas réalisé.
En fait, France, c'est un pays, égalité, liberté et les droits de l'homme quand même. Mais pour le moment, nous, on est souffrés.
Est-ce que tu aimerais aller à l'école ?
Bah oui, j'aime. Parce que je voulais apprendre. Là où je suis, je ne peux pas dire j'apprends. Moi, je ne connais rien. Tu vois ? Je voulais apprendre pour faire l'avenir.
Et c'est quoi ton rêve, ton espoir ? Est-ce que tu as un objectif ?
Je ne sais pas ce que je veux faire demain ou après demain, je ne sais pas.
Pourquoi des jeunes comme Camara ne sont-ils pas reconnus comme mineurs en France ?
Corinne Thor dénonce un dysfonctionnement lorsqu'ils sont évalués par les autorités.
On peut avoir déjà ce qu'on appelle un délit de faciès, un refus guichet. C'est-à-dire que quand il va se présenter chez l'évaluateur, on va l'arrêter en disant « toi t'es trop grand, t'es trop beau, t'es pas mineur ». C'est totalement illégal de faire ça.
Selon Médecins Sans Frontières, il y aurait près de 30 000 migrants mineurs non accompagnés, mais non reconnus comme tels. Vivre en France en 2019, pour ces jeunes, ça reste encore de la survie. C'était un reportage de Cilia Bourad, Petit Ponk Sainsouk, Omar Darwish, Aya El Brouzi, Sahara Lacruz et Mariam El Kurdi.
Voilà, Mariam El Kurdi de France Inter qui vous a donc accompagné dans ce travail. Alors, vous n'êtes pas les seuls à avoir choisi ce sujet. Il faut dire que dans différents établissements, ça a été le cas. Est-ce que, Sahara, je vais commencer par toi. Pourquoi est-ce que ça vous a intéressé et en quoi ça vous a touché ?
On a trouvé que c'était un sujet assez intéressant puisque notre thème, c'était vivre en France en 2019. Et on voulait un peu connaître la vie de ces jeunes migrants, parce qu'ils ont à peu près notre âge, et on sait qu'ils dorment à la rue, qu'ils ont une vie assez difficile par rapport à nous. Donc on a trouvé que ce serait très très intéressant de pouvoir aller les interviewer et découvrir un peu comment ils vivent.
Et tout à coup, de voir les migrants, quand on dit les migrants, là tout à coup, il y a un prénom, il y a un visage, il y a une histoire. Ça a été simple, le contact avec Camara ? J'ai l'impression que ça a été relativement facile, non ?
Non, pas vraiment. Pas vraiment. Alors donc, c'est parce que là, on a l'illusion, parce qu'il y a les, les doigts d'or qui sont passés par là. On a fait un petit peu de montage.
Bah, au début, c'était quand même difficile, parce qu'avant d'interviewer Camara, on avait essayé avec un autre migrant. Ça n'avait pas vraiment marché. Et pour les mettre un peu en confiance, on a dû jouer avec eux. Et même pour nous, au début, c'était pas évident. Mais comme on a joué avec eux, on a pu un peu plus parler. On a même partagé un repas avec eux. Et ça a permis un peu de les mettre à l'aise et de nous mettre à l'aise, nous aussi.
Il a fallu un petit peu vous apprivoiser les uns les autres, Cilia ?
Oui, bah après, on a senti une vraie différence après avoir joué, puisque, après avoir partagé un moment avec eux, parce que c'est eux qui se sont présentés à nous. Et puis oui, on a remarqué vraiment qu'ils étaient beaucoup plus à l'aise. Et je pense que c'était un moment... inévitable, en fait, pour ce reportage.
Camara, il nous a un peu raconté son histoire. Enfin, il est parti parce que son père, il était pauvre et que sa mère, elle était décédée. Et du coup, enfin, je me mets à leur place et c'est pas du tout évident.
Et c'est là qu'on se rend compte aussi de la chance qu'on a de pouvoir bien vivre. C'était trop chiant.
Vous l'avez raconté, ce reportage, cette sortie, vous l'avez raconté en famille après, quand vous êtes rentrés chez vous?
Oui, on l'a. Enfin, je pense qu'on l'a tous raconté parce que c'est quelque chose qui nous a marqué, qui nous a touché. Même entre nous, on en a reparlé. C'était bouleversant. Moi, je l'ai raconté à ma mère. Enfin, je lui ai dit tout ce qu'il nous avait raconté, Camara, et parce qu'on en avait besoin, je pense.
Vous pensez que vous avez de la chance aussi?
Oui, beaucoup de chance. Enfin,
beaucoup de chance.
On s'en rend compte quand on fait ce reportage. Ouais.
Ouais. Bon, alors on va écouter Kofi, c'est une chanteuse qu'on aime bien sur France Inter, elle est jeune, elle a 18 ans, elle est un petit peu plus vieille que vous, d'accord, elle est jamaïcaine, elle a l'air d'avoir une sacrée personnalité, elle a un sourire hyper craquant, Burning, c'est le titre de la chanson qu'on écoute.
On the street, tank top in the heat. Jeans, pants and Crocs, no socks left on me feet. Knapsack with me a beat, well pack up on the need. Stay woke, no sleep, me no little book keep. Money for me mind, but me never have a kind. Now cause me does a hustle for the pretty dollar sign. I never no fun time, life rough sometime. But me know me and me mommy happy, see the sunshine, that's why me
come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. It a burn like a tire, me have a burning sun. And if me try for retire, me leave them yearning. None can out my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame. Since the devil no like it himself, he turn it down. So me just give him the fire and make it burn, burning.
See ya, what become a Peter? Mommy say be doctor, granny say be preacher. Muffy be a rasta, daddy say be neater. Peter never like that, so him take the streets up. Everybody born with a talent to fi feature. Blessings in abundance, so we fi cherish each other. Never be ungrateful, life is such a teacher. Coffee pan upset a track, see me bring the heat, yeah.
Come with the fire, the city burning. Don't me just a turn it up fire and keep it burning. It a burn like a tire, me have a burning sun. And if we try for retire, me leave them yearning. None can out my flame. No, he can't quench, can't cool, can't tame.
On vient d'écouter Burning de Kofi.
Merci Wassim.
Interclasse,
saison 4,
sur France Inter.
Dernier volet d'Interclasse en compagnie des élèves de 3e du collège Georges Roubaud du 19e arrondissement de Paris. C'est une rencontre, c'est un portrait.
Hassan est un jeune enfant quand il quitte son pays, l'Afghanistan. Sa famille le fait passer en Iran, mais il part seul. Pendant 3 ans et demi, Hassan travaille dur dans le secteur du bâtiment et récolte 4 500 $. Grâce à cet argent, il parvient à rejoindre la Turquie. C'est au moment où Hassan veut aller en Europe, en Grèce, que tout se complique.
Il y avait 3 bateaux gonflables attachés l'un à l'autre avec un moteur. Et au bout de 10 minutes, il nous a lâchés parce qu'il n'y avait plus d'essence. Les policiers, ils nous repoussaient avec les vagues de leurs bateaux vers la Turquie. Et nous, on essayait toujours de ramer avec des mains, avec des chaussures. Ils ont joué avec nous jusqu'à 9h du matin. Au bout de 9h, ils ont dit, ils ne nous lâchent pas, du coup on les récupère. Et nous ont récupérés, ils nous ont mis dans un centre de rétention. Pendant un mois, au bout d'un mois, on a commencé à faire la grève de faim. Au bout de 3 jours de la grève, ils nous ont laissé sortir.
Après un long périple, Hassan arrive en 2012 à Paris, une ville où il ne pensait pas rester. Ce sont des bénévoles qui l'ont poussé à suivre des cours de français et qui lui ont trouvé différents foyers d'urgence pour qu'il puisse commencer à préparer ses papiers. Quand Hassan espère travailler, il se heurte à l'administration.
La préfecture de police, il refusait parce que je n'avais pas un contrat. Mon patron, il disait, je ne peux pas signer un contrat parce que vous n'avez pas de papiers. Et finalement, mon patron, il dit, ok, d'accord, bon, je vais signer ton contrat sans avoir des papiers. Et à partir de ce moment-là, que je suis allé à la préfecture de police, j'ai montré mon contrat, et ils m'ont dit, bah, maintenant, on vous autorise à travailler.
Et c'est justement ce casse-tête qu'aimerait changer la députée Crimi.
Sonia, 36 ans, je suis devenue française il y a 6 ans, et je suis députée depuis un an et demi maintenant.
Pour la députée de la Manche, il y a une solution, c'est le système allemand.
Quand vous arrivez, vous êtes pris en charge, et toutes les administrations y viennent vous voir, pendant 3 jours en statut sur votre cas. On ne vous balade pas, en fait.
Aujourd'hui, Hassan est géomètre pour le projet Grand Paris. Il mène une vie correcte. Mais dans cette réussite, il pense ne rien devoir à l'État et tout aux associations.
J'étais accueilli super bien par des bénévoles. Et ces bénévoles-là qui m'ont convaincu de rester en France. Notamment, je pense à une personne qui est devenue finalement ma mère. Pas ma mère de sang, mais ma mère de cœur. Qui était une bénévole à la base. Et aujourd'hui, on est en relation mère et fils, quoi.
Sa vraie famille habite désormais en Iran, où il va la voir moins d'une fois par an. Hassan nous confie que ses proches lui manquent. Pourtant, il ne veut pas qu'ils viennent, pour lui éviter de subir les mêmes épreuves que lui. C'était un reportage de Wassim Gemey, Elias Limani, Fatoumata Traoré, Racha Belkarmi, Marie Boulel et Karine Bécard.
Merci Marie. Donc Karine Bécard, effectivement, qui vous a accompagnée dans votre travail. Marie, une première action, vous étiez tous hyper concentrés. Il y avait comme une petite tension hein, dans ce studio, parce que c'est vrai que ce que dit Hassan et ce que dit aussi Sonia Crimi, ça laisse des traces.
Oui, ça laisse des traces parce que on croit que des fois, ils ne réussissent pas. Et pour moi, Hassan, c'est la preuve qu'en France, avec la volonté et de la persévérance, on peut réussir. Et que Sonia Crimi, quand même, elle a un parcours hors norme. Être députée alors qu'on n'est pas forcément française d'origine et que maintenant elle porte les couleurs de la France à l'Assemblée nationale, c'est émouvant quand même.
C'est assez génial, non ?
Oui, c'est génial.
Ouais. Karine Bécard, bonsoir.
Bonsoir.
Comment est-ce que... Vous, c'est votre première année d'interclasse ?
Exactement.
Ça s'est bien passé ?
Je me suis jetée à l'eau. Ça s'est très bien passé. Alors, on n'était pas sûr de partir sur cette idée des migrants. Parce que je me souviens qu'Eliès voulait faire du football, notamment, par exemple. Il voulait qu'on parle des salaires des footballeurs. Et donc est venue cette idée aussi des migrants, qui intéresse beaucoup les enfants, c'est marrant. Hein. C'est assez passionnant pour eux. Enfin, c'est assez intriguant. Et cette idée-là, moi, m'a plu parce que il y a l'idée de, on est prêt à faire quel sacrifice, on est prêt à aller jusqu'où pour vivre aujourd'hui en France. Et donc voilà, on est parti sur cette idée-là. Et après, on a fait cette rencontre avec Hassan, qui a été très forte, qui a duré très longtemps. Ça s'est passé ici à France Inter. On l'a très bien reçu. On l'a installé dans le beau studio 611, qui est juste à côté de celui-ci.
Ouais.
La rencontre a duré 45 minutes. Et il nous a raconté vraiment l'entièreté de ce périple, en fait, qui a duré quasiment une dizaine d'années pour lui au total.
Elias, comment est-ce que tu as vécu cette rencontre ? Mais bon, t'es pas trop triste de pas avoir bossé sur le foot ?
Non, pas trop triste.
Il porte quand même un t-shirt PSG. Oui, je raconte pas que n'importe quoi. Il est fasciné par le football, Elias. Bah, mais pas que.
Honnêtement, c'était une bonne expérience de découvrir des gens qui ont réussi dans la vie, qui sont partis de rien du tout. Jusqu'à maintenant à trouver un emploi, qui ont une maison et qui touchent des salaires.
Est-ce que pour toi, ça peut être un exemple, par exemple,
oui,
tu peux te dire, voilà, ça c'est un type, si un type comme ça existe, bah...
Oui, ça peut être un grand exemple pour ceux qui croient qu'on a, si on n'a rien dans la vie, on ne pourra jamais réussir. Ouais. Mais au contraire, on peut, si on croit vraiment à quelque chose, on pourra y arriver.
Ouais. Mais comment est-ce que vous avez travaillé justement en amont ? Parce que j'imagine que Karine vous a donné quelques pistes, mais comment est-ce que vous avez préparé vos interviews ?
Ben on a essayé de, comme le reportage il dure que 3 minutes 30, on a essayé vraiment de poser les questions les plus intéressantes. On n'a pas pu tout garder, on a gardé vraiment, on va dire, le principal du sujet.
Ouais, après on a le cœur qui saigne hein, quand on ne peut pas tout faire écouter aux auditeurs. Élie, Sarah, vous êtes impressionnée d'avoir entendu, vous l'avez pas rencontrée, mais vous êtes impressionnée, Sarah.
Oui, quand même, parce qu'en écoutant le reportage,
je peux constater que, comme vous l'avez dit, Hassan, c'est un exemple pour ceux qui veulent venir en France et qui veulent tenter de réussir. Mais je trouve qu'ils ont quand même des parcours très intéressants, lui et la députée.
Élise ?
Je pense que surtout, c'est vraiment très beau parce que du coup, après tout ce qu'il a vécu, Hassan, il arrive quand même à parler de son histoire et à le raconter encore. Et je pense que ça peut quand même être une source de motivation. Il a réussi, pourquoi d'autres personnes ne peuvent pas réussir ? Je trouve ça très beau.
Et du coup, alors là, je pose la question un petit peu plus, d'une manière un petit peu plus générale, et pas que au sujet d'Hassan, mais le fait de toutes ces rencontres, tout ce travail que vous avez effectué, est-ce que vous avez l'impression que ça vous a un peu ouvert l'esprit? Est-ce qu'éventuellement, ça vous a donné l'envie, peut-être un jour, de devenir journaliste? Est-ce que vous allez nous écouter différemment? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Oui, alors Cilia, vas-y.
En bilan, moi, j'en tire que vraiment le métier de journaliste, c'est un métier que je pensais pas être aussi compliqué. Et un métier qui offre la chance de faire plein de rencontres. Donc oui, moi ça a été enrichissant en tout cas pour moi cette année.
Marie ?
Oui, moi je trouve que c'est un très beau projet. Comme on a dit, on a tous un sujet différent, mais on en parle tous entre nous. Quand on a une sortie, tout le monde est au courant, après on se la raconte. Pourtant moi j'ai raconté la sortie à Hassan, la sortie à l'Assemblée nationale. Donc oui, ça crée des liens.
Et le fait de faire quelque chose ensemble, vous ne trouvez pas que c'est formidable ?
Mais oui, ça nous apprend quand même à travailler en groupe. Par exemple, là, on était cinq dans le groupe, ça nous a permis de... par exemple, des fois, on n'était pas d'accord sur des questions, de se mettre d'accord, de reformuler. Vraiment, c'est vraiment une cohésion, je dirais, d'équipe.
Cohésion d'équipe. Alors là, je voudrais bien, sur ce sujet, qu'on entende vos deux professeurs qui vous ont accompagnés ce soir, Elena Pavel et Laurence Grammard. Qu'est-ce que vous pourriez dire d'abord de ce que vous avez entendu de cette émission précise et d'un bilan peut-être un petit peu plus général d'Interclasse ? Elena Pavel.
On a souvent l'image de jeunes tournés vers eux-mêmes, leur écran, leur monde. Et en fait, on s'est trouvé face à des jeunes très curieux. Mais curieux de l'autre dans tous les sens. Une autre jeunesse, d'autres cultures, d'autres parcours. Et ils avaient vraiment envie d'aller dans des lieux où on ne peut pas aller. Par exemple, la prison. Ça a été vraiment, pour moi, un des projets les plus marquants. Le partage aussi avec les mineurs isolés. On a partagé un repas, c'était très émouvant. Les filles n'en ont pas parlé, mais il faut souligner l'absence des jeunes filles dans ces centres. Nous n'avons rencontré que des garçons et du coup, ça nous a aussi poussé à réfléchir sur ces jeunes filles qu'on ne voit jamais. Le parcours d'Hassan est juste incroyable. Hassan qui est lui-même bénévole, hein. C'est comme ça que moi je l'ai rencontré. Il vient dans les écoles et il témoigne sur l'Afghanistan, notamment sur le sort des filles en Afghanistan. C'est comme s'il rendait un peu ce qu'on lui avait donné. Et pour finir, cette jeunesse du lycée de Montaigne qui les faisait tant rêver, finalement, ils se sont rendus compte qu'ils avaient plein de points communs. Et cette année, vraiment, il y a eu cette ouverture dans tous les sens. Et je remercie les journalistes d'avoir mouillé la chemise, hein, quand même, pour nous faire entrer dans des endroits pas faciles. Et ça a été, pour moi aussi, une année très enrichissante.
Chacun, vraiment. Tout le monde a mouillé sa chemise. Laurence Grammard.
Alors déjà, oui, merci à l'équipe d'Interclasse, parce que chaque année, Sahara en parlait tout à l'heure, c'est la quatrième année pour nous Interclasse, et en fait la magie continue à opérer, donc il n'y a aucune routine. Et deuxième chose, tout à l'heure, ils ont évoqué le côté politisé, ils ont notamment fait comprendre que eux étaient plutôt désintéressés de la politique, alors soit ils sont très modestes, soit ils sont un petit peu menteurs, et moi je trouve que... Justement, avec les sujets qu'ils ont choisis, les endroits qu'ils ont rencontrés, avec Interclasse qui a permis de réduire justement toutes ces distances, en fait, des sujets qui leur semblent très lointains, très obscurs, le fait de pouvoir mettre des visages, en fait, sur des problématiques totalement politiques. Pardon, mais je pense que la question des migrants, de l'école en prison, de l'avenir des jeunes, de la réforme du lycée, c'est ce dont il a été question aussi avec la rencontre à Montaigne. Comme chaque année, je suis hyper épatée et très fière.
Donc... Ben moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il est temps de se quitter. Alors, nous sommes à la fois heureux d'avoir fabriqué ces 7 émissions d'été, hein, chaque samedi, entre 20h et 21h, le collège Pierre de Jeter à Saint-Denis, le lycée René Auffray à Clichy-la-Garenne, le lycée Jean-Jacques Rousseau à Sarcelles, le lycée Voilôme à Aulnay-sous-Bois, le collège Jean Villard à Grigny, le lycée Édouard Branly à Créteil, et le collège Georges Rouault à Paris, heureux, puis un petit peu triste malgré tout, parce que c'est fini, en tout cas provisoirement. Merci à Lauriane Toulmont qui a réalisé cette émission comme toutes les autres qui ont précédé. Merci à Fanny Léonore Crouzet, coordinatrice du dispositif d'Interclasse, aux compétences indispensables à la réussite de l'opération. Merci à YouTube Diego à Clopes pour la prise de son, ainsi qu'à Muriel Pérez pour la programmation musicale. Merci à vous, les élèves de 3e du collège Georges Roux de Paris dans le 19e. Merci à vos professeurs et aux journalistes qui vous ont accompagnés.